Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre.
La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier.
Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi.
On était condamnés à disparaître.
On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit...
Tous les matins du 24 octobre au 1er novembre, sur les 3-8, une fenêtre quotidienne ouverte sur la 23e édition du Festival cinématographique d'automne de Gardanne, un festival qui se déroule en ce moment au cinéma 3 Casinos de Gardanne. Aujourd'hui, le réalisateur Christian Rouault nous parle de son nouveau film, Tous au Larzac, qui, comme son précédent, L'Élipe, l'imagination au pouvoir, raconte, à travers les interviews des acteurs de l'époque, une lutte qui a marqué la vie sociale et politique française. Celle-ci est celle d'une centaine de paysans du Larzac, parmi lesquels José Bové, qui se sont battus pendant 10 ans contre leur expropriation programmée par le gouvernement français de l'époque en vue d'une extension d'un camp militaire. Des paysans qui ont su fédérer autour d'eux un nombre très important de soutiens et qui ont gagné leur combat et que l'on retrouvera après à l'origine des luttes contre la malbouffe, les OGM ou bien encore le gaz de schiste.
On s'est battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin.
Christian Rouault, vous avez dit qu'avec ce film, Tous au Larzac, c'est en quelque sorte la clôture d'un cycle.
Oui, parce que j'avais fait déjà un film sur Bernard Lambert, qui avait créé les paysans travailleurs dans les années 70, qui sont l'ancêtre de la Confédération paysanne. Hein. Il est mort juste au moment où il allait créer la Confédération paysanne. Et ce personnage est très important dans la lutte du Larzac, puisque c'est lui qui a eu l'idée du grand rassemblement de 73 qui faisait le lien entre la lutte des LIP et la lutte des paysans, c'est-à-dire le lien entre la classe ouvrière et la paysannerie, ce qui était très nouveau à l'époque. Et puis après, j'ai fait un film sur les LIP, sur la lutte des LIP, et effectivement, le lien s'est fait entre les LIP et le Larzac. Donc voilà, les trois films, Lambert, les LIP, le Larzac, ça fait une espèce de trilogie sur les années 70.
Et ce sont des gens du Larzac qui ont vu le film sur les LIP, qui ont lancé un petit peu un appel au réalisateur que vous êtes pour venir faire ce film sur le Larzac ?
Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, j'avais tourné pour le film des LIP une séquence sur le Larzac qui a sauté au montage parce que voilà, les films doivent faire une certaine durée. Hein, je pouvais pas faire plus de 2 heures. Et donc ils ont trouvé que c'était dommage qu'on parle pas du Larzac dans les LIP, et puis ils ont dit que ce serait bien s'il y avait un film qui était fait sur le Larzac, quoi. Donc j'ai senti que je pouvais aller là-bas et que j'allais rencontrer des gens qui seraient favorables, quoi.
Ce qui est très étonnant avec cette lutte du Larzac, qui est donc des paysans qui se rassemblent pour lutter contre un projet d'extension d'un camp militaire qui va les exproprier de leur ferme, c'est que des paysans catholiques de droite, catholiques pratiquants, vont rassembler à peu près tout ce que compte la gauche dans les années 70, quoi, sur le Larzac.
La gauche et l'extrême gauche. Oui, mais c'est parce que bon, il y a une conjonction étonnante, ça se passe dans les années 70, et c'est vrai que il y a toute la génération des 68ards, qui pour moi n'est pas un mot péjoratif, hein, je tiens à le préciser, qui étaient engagés dans tout un tas de luttes, et qui ont vu là un espèce d'emblème possible, quoi, pour montrer qu'on peut bouger, qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'il suffit de se mettre à plusieurs pour se battre, et que finalement on y arrive.
Ce sont des gens, l'extrême gauche et la gauche, dans ces années-là, qui avaient des rhétoriques absolument redoutables. Comment ont fait ces paysans catholiques pratiquants de droite pour ne pas se faire déborder et garder le contrôle de cette lutte qui a duré quand même pendant 10 ans?
Alors d'abord, ils avaient une idée qui était très forte, qui était de dire « on accepte toutes les aides, d'où qu'elles viennent, à condition qu'on garde le contrôle de la lutte ». Et en particulier, ils n'ont pas voulu se couper de leur soutien d'origine, qui était d'un côté la FNSEA et de l'autre côté l'Église catholique. Et ça va être très important parce que ça va faire un espèce de pendant à toutes ces chapelles d'extrême gauche ou de non-violents ou de hippies ou qui vont venir sur le plateau. Eux, ils restent les pieds sur terre, ils savent où ils vont et simplement ils ont assez d'ouverture pour accepter les idées quand elles sont bonnes. Et il y a plein d'idées de lutte sur ces 10 ans-là qui viendront de toute cette mouvance extérieure et qui des fois les étonneront, mais qu'ils accepteront parce qu'ils voient bien que ça fait avancer le mouvement.
Il y a eu tout un débat sur l'usage de la violence ou pas. Les Mao qui sont arrivés, certains sont, c'est dit dans le film, arrivés avec des pains de plastique dans les bagages.
Évidemment, les Mao sont venus d'abord en essayant de diviser les paysans, hein, entre les grands et les petits. Alors c'était rigolo parce que ceux qui considéraient comme les gros, qui avaient effectivement des grosses exploitations, plusieurs ouvriers, etc., en fait, ils étaient endettés au Crédit Agricole, hein, et ils avaient investi. Alors que ceux qui considéraient comme les petits, souvent, qui avaient quelques moutons mais qui étaient là de toute éternité, quand ils voulaient acheter un tracteur, ils sortaient les bichetons, ils les posaient sur le comptoir de la banque et c'était cash. Et donc les riches n'étaient pas forcément ceux qu'on croit. Bon. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés aussi avec l'idée que il fallait se battre violemment, faire sauter des ponts, tuer un militaire devant le camp, etc. Bon. Or, c'est vrai que c'est au début, ils ont eu un certain écho parce que les paysans avaient tous un fusil chez eux. Hein. Ils sont chasseurs, ils avaient tous un flingue. Et leur première réaction, ça a été de dire bon, bah, si on vient me prendre ma ferme, je partirai, mais les pieds devant, et puis il y aura des morts, quoi. Bon. Et ce qui va se passer, c'est que, alors c'est un fait assez étrange, il y a Lanza del Vasto, donc, qui est un disciple de Gandhi, qui est dans une communauté pas très très loin, qui va venir proposer de jeûner pour eux pendant 15 jours. Ce qui est une idée très très étrange pour des paysans de l'Aveyron, de ne pas manger, enfin ils ont même peur qu'il leur claque dans les doigts, etc. Et ce Lanza del Vasto, tous les soirs, va leur faire une conférence sur la non-violence, en leur expliquant que de toute façon, avec leur pétoire, hein, face à des chars d'assaut, ils ne peuvent pas grand-chose, et que donc, il va falloir faire fonctionner d'autres idées, et en particulier les idées de la non-violence. Et c'est ça qui va fonctionner, c'est-à-dire que tout leur affrontement, c'est un western, mais désarmé, quoi, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils vont, bloquer des convois militaires, ils vont les empêcher de tirer, ils vont perturber des défilés à Millau, ils vont peindre de leurs slogans les chars d'assaut et tout ça, donc toujours de façon non violente, mais en même temps très très résolu, hein, c'est-à-dire que quand ils savent qu'un convoi militaire va passer, ils mettent des planches à clous, le convoi arrive, tac, les pneus sont crevés, il est bloqué, etc. Bon, c'était pas... Lanza del Vasto disait la non-violence, c'est pas la non-violence du lapin et du mouton, quoi. Hein, il dit, il faut être déterminé, il faut une violence terrible à l'intérieur pour être non-violent. Et c'est ça qu'ils ont mis en œuvre, tout en disant très bien qu'on est en démocratie. Hein. C'est-à-dire que la non-violence n'est pas... Quand on a en face des soirs des dictateurs sanglants, quelquefois, il faut quand même aller plus loin que juste se tenir les coudes et s'asseoir par terre. Voilà.
Ils identifient tout de suite le fait qu'il faut qu'ils gardent le contrôle de la lutte malgré tous ces gens qui le rejoignent. Ils prennent le parti pris de la non-violence et ils se rendent compte aussi tout de suite de l'importance de l'opinion publique et de l'image qu'ils ont donnée dans la presse.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent assez vite que la presse dit n'importe quoi, que la télé, c'est encore pire. Et donc, ils décident de prendre les choses en main. Alors, de deux façons. D'abord, ils vont créer un journal, eux-mêmes, leur propre journal, qui s'appelle Gardarem ou Larzac, qui va être diffusé très, très largement, parce que comme il s'est créé plein de comités Larzac dans toute la France, ça fait des relais d'information. Et puis, ils vont se mettre à filmer. Et la plupart des images que moi, j'utilise comme des archives dans le film, elles ont été tournées par les paysans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contre travail d'image. Par exemple, Léon Maillet, hein, qui est un des personnages du film, qu'on voit au début courir dans le Larzac, il filmait tout le temps. Et il faisait des montages, même, qu'on appelait le journal de Léon Maillet, qui était un journal cinématographique, et qui était diffusé dans le début des meetings. Quand il y avait des meetings de soutien dans toute la France, on diffusait le journal de Léon Maillet, qui donnait des nouvelles fraîches du Larzac du côté de ceux qui se battent.
Christian Roux, on voit bien que c'est une lutte qui a fait participer énormément de gens, que les acteurs sont multiples et tout ça. Comment vous avez fait, vous, pour identifier vos personnages? Parce que dans ce film, tous au Larzac, vous faites comme dans les livres, on suit l'histoire à travers des personnages comme ça, très attachants, hein, d'ailleurs.
Ah, bon, dans une lutte, même si elle est extrêmement collective, il y a quand même des leaders qui apparaissent. Donc j'avais un certain nombre de noms. Et puis après, bon, bah, en discutant avec eux, ils me disaient, tiens, il y a un tel, etc. C'est-à-dire qu'assez vite, j'ai su qui étaient les personnes qui étaient susceptibles de raconter l'histoire. Et puis après, bon, ça devenait compliqué parce qu'à chaque fois que je parlais à quelqu'un, il disait, mais tiens, il faut voir un tel. Donc comme je voulais limiter le nombre de personnages parce que je voulais avoir le temps de faire des portraits vraiment sérieux de chacun d'eux, c'est-à-dire qu'à la fin du film, on ait l'impression de les connaître un peu. Je me suis dit, voilà, j'arrête, tant pis, il va manquer plein de gens, mais voilà, j'ai 9 personnages et c'est avec eux que je raconte l'histoire. Mon problème, c'est qu'il y avait 2 personnages qui étaient décédés, Guy Tarlier, qui était le leader de la lutte, et puis Auguste Guiraud, qui était un des fermiers qui était vraiment au centre du conflit, puisqu'il habitait à la Blaquière, c'est-à-dire tout près du camp militaire. Et il a été au centre de l'histoire très souvent, puisque c'est chez lui qu'on a construit la fameuse bergerie magnifique, qui était une espèce de manifestation en dur, comme ils disent, hein, qui témoigne de la lutte. Et puis, sa maison a explosé. Il y a eu un attentat et ils ont tous failli mourir là. Donc, c'est un personnage clé de l'histoire. Et c'est sa femme, Marie-Rose, qui, en 73, tient le fameux discours où elle dit « l'argent, l'argent, et non que ce mot à la bouche ». Phrase qui résonne quand même pas mal aujourd'hui.
Un monsieur dans le public, dans le débat qui a suivi la projection de votre film à Gardanne, disait qu'il faut garder à l'esprit que le Larzac a été un vrai laboratoire d'idées.
Oui, et moi j'irais plus loin, je dirais que quelqu'un a employé le mot nostalgie, c'est un mot que j'aime pas du tout. J'ai pas du tout voulu faire un film nostalgique sur les années 70. C'est pas du tout l'idée que c'était bien à cette époque-là et que c'est pas bien maintenant. Je crois qu'on peut toujours se battre. D'ailleurs, bon, les jeunes, ils sont en train de nous montrer qu'on peut se battre. Enfin, qui aurait pu imaginer les indignés, qui aurait pu imaginer le printemps arabe, qui aurait pu imaginer les manifs à Wall Street. Enfin bon, moi, je suis très optimiste sur ce qui va se passer, parce qu'on voit bien que c'est de la société qu'on nous a imposée dans les années 80, elle va dans le mur, qu'il va falloir trouver autre chose. Et les jeunes ne vont pas supporter de vivre moins bien que leurs parents. Donc, ils vont se battre. Si ce film nous dit quelque chose, il nous dit on peut se battre, voilà, on a pu se battre dans les années 70, on peut se battre aujourd'hui.
10 ans de lutte de Larzac avec tout ce qu'on peut imaginer, des brebis dans les tribunaux, dans les rues des villes, sous la tour Eiffel, des campements sauvages, enfin vraiment plein de choses, un rassemblement de 60 000 personnes au Larzac tous les ans, enfin, etc., etc. Et c'est finalement l'élection de François Mitterrand qui va être déterminante, parce que quelques mois avant, c'était presque foutu.
Oui, bah c'est, moi je trouve que c'est intéressant cette histoire-là, parce que ça, c'est la question de la dialectique entre les luttes et le bulletin de vote, quoi. C'est-à-dire que se battre, c'est bien, mais il faut quelquefois une traduction politique. Enfin, c'est pas c'est bien, je dirais, c'est indispensable, mais il faut une traduction politique. Et quelquefois, des luttes victorieuses, comme par exemple celle des LIP, hein, ils avaient gagné, ils avaient été tous repris, et l'usine a été délibérément assassinée par un gouvernement hostile. Donc, cette idée qu'il faut se battre, mais qu'en plus, il faut élire des alliés, ça me paraît très, très important.
Il faut les élire, il faut pas les lâcher, parce que Mitterrand qui avait promis de signer, en fait, il a fallu mettre la pression pour qu'il signe.
Absolument, oui, parce que c'était Charles Hernu qui était le ministre des armées, il était assez introduit dans les milieux militaires, etc. Et il pensait qu'on ne pouvait pas, comme ça, humilier l'armée à ce point et qu'il allait se passer des choses. En plus, il y avait une espèce de syndrome du Chili. Hein. Il disait il va y avoir un coup d'État. Enfin bon, c'était des conneries, mais quand même. Enfin, et donc, il a fallu que les paysans, à nouveau, remettre le paquet, aille voir Pierre Mauroy. Alors, Pierre Mauroy, la ville de Lille était jumelée avec une ferme du plateau, avec Montredon. Donc, ils avaient une raison d'aller le voir. Et donc, ils sont allés le voir à Lille. Et c'est Pierre Mauroy qui était Premier ministre à l'époque de Mitterrand qui a tapé du poing sur la table. Et les paysans eux-mêmes ont menacé de faire la grève de la faim devant l'Élysée s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Bon, Mitterrand aurait signé de toute façon, mais il a signé comme ça à ce moment-là, quoi.
Christian Roux, vous faisiez quoi, vous, dans ces années? Vous étiez avec eux au Larzac?
Je suis pas venu sur le Larzac à l'époque. Moi, j'habitais en banlieue parisienne, j'étais militant du PSU, Parti Socialiste Unifié. On était à fond derrière les Libres, derrière le Larzac et tout ça. J'ai fait plein de manifs, plein de meetings, plein de. J'ai distribué 50 000 tracts sur le marché. Enfin bon, on les soutenait tant qu'on pouvait. Il se trouve que en 73, quand il y a eu le premier rassemblement, j'étais là en Albanie. Bon, c'était un peu la Chine du pauvre à l'époque, l'Albanie. Bon, j'ai compris assez vite que quand même ça pouvait pas être un modèle. Et puis l'année d'après, en 74, les Portugais avaient eu la bonne idée de faire une révolution en avril. Donc je suis allé voir la révolution portugaise. Donc j'étais pas non plus sur le plateau du Larzac en 74. Mais bon, j'étais très très solidaire, évidemment.
Prochain film de Christian Roux sur un musicien breton.
Oui, voilà. C'est un personnage qui est déjà dans deux de mes films précédents. Et je voulais absolument faire un film sur lui. C'est un personnage absolument magnifique, qui est un espèce de Monsieur Hulot, très drôle, un musicien absolument extraordinaire et un humaniste. Donc voilà, c'est le portrait d'un beau personnage.
Et ça y est, il est monté?
Il est fini, il attend plus qu'à sortir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème,
C'était Christian Rouault, son film Tout au Larzac était projeté en ouverture de la 23e édition du Festival de Gardanne le vendredi 21 octobre dernier. Il sortira sur les écrans le 23 novembre prochain. Un festival de Gardanne qui se déroule au cinéma 3 Casinos de Gardanne jusqu'au 1er novembre prochain. Demain, même heure, même zone, de la réalisatrice Emmanuelle Millet nous dira quelques mots de son film La Brindille.
La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs.